France Musique. Musicopolis. Vienne, 1814-1815. Le 18 septembre 1814 est une date importante dans l'histoire de l'Europe. C'est l'inauguration officielle de la conférence diplomatique qui réunit toutes les puissances, grandes et petites, pour élaborer une fin provisoire aux guerres qui ravagent l'Europe depuis la Révolution française. Tous les chefs d'État et les diplomates sont présents. Les noms des souverains, des ministres et des chargés d'affaires des différentes cours forment une liste de plus de 500 personnes qui sont venues avec leur suite. Au sortir de longues années de guerre, qui semblaient avoir tari toutes les sources de richesses, les têtes couronnées réussissent pourtant à déployer des prodigalités sans fin qu'elles dispensent dans une grande fête qui va durer 5 mois. Pour vous donner une idée de l'ambiance qui règne à Vienne pendant le congrès, je voudrais vous citer les mots par lesquels le prince de Ligne, feldmaréchal des armées impériales, accueille un de ses jeunes parents accourus pour l'événement. « Vous arrivez à point pour voir de grandes choses. L'Europe est à Vienne. Le tissu de la politique est tout brodé de fêtes. À votre âge, on aime les réunions joyeuses, les bals, les plaisirs. Je vous réponds que vous n'en chômerez pas, car le congrès ne marche pas, il danse. C'est une cohue royale. De toutes parts, on crie paix, justice, équilibre, indemnité, légitimité. La concorde a enfin réuni les peuples, si longtemps ennemis. Leurs plus illustres représentants en donnent déjà l'exemple. Chose qu'on voit ici pour la première fois, le plaisir va conquérir la paix. » Les mémoires de l'époque du congrès de Vienne regorgent de descriptions des fêtes magnifiques données avec une régularité d'horlogerie. Tous les 8 jours, grande réception et bal à la cour. Et des jours fixes dans les salons de la haute société autrichienne. Les lundis chez Madame de Metternich, les jeudis chez le prince de Trautmannsdorf, les samedis chez la comtesse Zichy. Au palais impérial, bien sûr, on met les petits plats dans les grands pour les bals de la redoute. le comte Auguste de Lagarde raconte une fête au palais impérial. La salle principale était magnifiquement éclairée et entourée d'une galerie circulaire donnant entrée dans de vastes salons disposés pour le souper. Sur des banquettes élevées en amphithéâtre, était assise une foule de dames, quelques-unes en domino, le plus grand nombre en costume de caractère. Rien de plus éblouissant que cette réunion de femmes, toutes jeunes et belles, et chacune dans une parure en harmonie avec son genre de beauté. Tous les siècles, tous les pays semblaient s'être donné rendez-vous dans ce cercle gracieux. À des intervalles égaux, des orchestres exécutaient tour à tour des polonaises et des valses. Dans les salles contiguës, on dansait des menuets avec toute la gravité allemande, ce qui n'était pas la partie la moins comique du tableau. Parmi les réjouissances offertes par la capitale autrichienne à ses invités du Congrès, quelques concerts qui permettent d'entendre les œuvres qui ont marqué la récente histoire de la musique viennoise. À l'automne 1814, on donne au théâtre de la Porte de Carinthie le célèbre oratorio « La création » de Haydn. Le maître est mort il y a 5 ans seulement, pendant l'occupation française. Le souvenir des premières auditions est encore tout frais dans les mémoires. Ce soir de congrès, nous dit un témoin, la salle, éclairée par une multitude de bougies, et les loges drapées avec magnificence, formaient un coup d'œil éblouissant. Plusieurs loges étaient destinées aux souverains, d'autres occupées par le corps diplomatique. Quant au parterre, il était tellement rempli de gens décorés qu'on eût pu l'appeler un parterre de chevaliers.
Thank you.
Depuis la mort de Haydn en 1809, un compositeur à Vienne est considéré comme le plus grand, même s'il est jugé parfois un peu excentrique. C'est Beethoven. On l'a trouvé excentrique en particulier lorsqu'il a donné l'année passée, en 1813, sa grande œuvre visant à célébrer la victoire de Wellington à Victoria. Bien sûr, l'occasion est trop belle en cet automne de congrès de refaire entendre ce morceau qui donne une vie musicale à la bataille, à grand renfort de percussions, de trompettes et d'air connu. Les autorités municipales viennoises ont confié à Beethoven la composition d'une œuvre nouvelle pour honorer les centaines de visiteurs distingués présents dans la capitale à l'occasion du congrès. Dès le mois d'octobre, il s'est mis au travail. Et le 29 novembre, au même concert que la victoire de Wellington, il dirige pour la première fois sa cantate « Le glorieux moment ». « L'Europe est debout », clame le texte. « Et les temps, dans leur marche éternelle », le cœur des peuples et les siècles anciens élèvent, stupéfaits, leurs regards. si beaucoup de monde se rencontre dans les bals, les fêtes et les concerts, la diplomatie se fait ailleurs. Quelques hauts personnages ne cessent de discuter entre eux. Les représentants de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche et du Royaume-Uni. Talleyrand, pour la France, a réussi à prendre part aux discussions et il a entraîné avec lui des émissaires de l'Espagne, du Portugal et de la Suède qui l'aideront de leur voix à peser dans ce grand concert. C'est à l'instigation de Talleyrand que l'empereur d'Autriche a organisé une cérémonie funèbre pour Louis XVI, dont la mort, 22 ans plus tôt, avait frappé d'effroi tous les monarques européens. Il était grand temps de rendre hommage au roi français. Le Requiem à la mémoire de Louis XVI, avec la musique de Sigismund Neukomm, élève de Haydn, a été donné dans la cathédrale de Vienne le jour anniversaire de la mort du roi, le 21 janvier 1815, alors que l'hiver a ralenti quelque peu les ardeurs des congressistes. Mais bientôt, le carnaval va ramener la période des bals et des fêtes. Thank you. une danse en particulier fait tourner les têtes à Vienne et même suscite quelques plaintes des gardiens de la morale. C'est la valse. Un témoin nous décrit la scène. Dès que les premières mesures se sont fait entendre, les physionomies s'épanouissent, les yeux s'animent, un frémissement court de proche en proche. Les gracieux tourbillons s'organisent, se mettent en mouvement, se croisent, se devancent, tandis que les spectateurs que l'âge réduit à l'immobilité marquent la mesure et le rythme. Il fallait voir ces femmes ravissantes, toutes éclatantes de fleurs et de diamants, emportées par cette irrésistible harmonie, penchées sur les bras de leurs valseurs et semblables à de brillants météores. Il fallait voir la soie brillante, la gaze légère de leurs vêtements obéir à l'impulsion et dessiner de gracieuses ondulations. Il fallait voir enfin cette sorte de bonheur extatique respirant sur leur charmant visage. Au début du mois de mars 1815, les participants au congrès de Vienne apprennent avec effroi que Napoléon s'est échappé de son exil et qu'il est rentré en France. Soudain, tout le monde entrevoit la possibilité de nouveaux malheurs dont on s'était cru délivré. Et pourtant, à Vienne, on joue encore dans les redoutes. De nombreux spectateurs se sont réunis pour écouter le grand succès de l'année 1800, le calife de Bagdad. Mais, écrit un témoin, c'est la dernière lueur d'une lampe qui s'éteint, le dernier son affaibli d'un instrument qui se tait. Le plaisir a fui, le congrès est dissous. L'ouverture du Calife de Bagdad de François-Adrien Voyelieu avec l'orchestre de la Suisse italienne dirigé par Howard Griffiths. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Petit pour la réalisation, Julien Bourdet pour le mixage et Max Dozolm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.